Nicolas Sarkozy vous aime. Nicolas Sarkozy vous fait des bisous dans le cou. Des petits bisous dans le cou. Nicolas Sarkozy vous aime.
Ici l'abbé Pierre qui vous parle du paradis. Mes amis, au secours, là d'où je vous parle, beaucoup de miséreux qui m'entourent me disent ceci. Nous sommes morts dans la misère et la solitude, mais la misère et la solitude nous ont hélas survécu. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui sont encore vivants vont devoir choisir lors de leur vote entre la colère et la raison. Mes amis, souvenez-vous, ces mamans qu'on a expulsées de leur logement avec leurs enfants par la force publique, ces miséreux qui ont fui leur pays en guerre pour nourrir leur famille et qu'on renvoie chez eux, alors que chez eux, c'est nulle part. Souvenez-vous de tous ces gens qui ont perdu leur travail à l'usine, alors que leurs dirigeants, qui n'ont jamais gagné autant d'argent, s'envolent pour faire trimer, j'ai bien dit trimer, d'autres miséreux dans des conditions inhumaines. Mes amis, tout cela du haut du paradis me donne le vertige. C'est pourquoi je vous lance un appel. Toi qui m'écoutes et qui souffres, méfie-toi de ceux qui essaient de te duper et qui dressent les individus les uns contre les autres en faisant mine de rassembler. Méfie-toi d'un homme aveuglé par le pouvoir qui promet n'importe quoi et qui le fera en plus. Partage avec les miséreux plutôt que de les rejeter, car ton pays n'est pas si pauvre que celui des justes qui ont aidé les Juifs pendant la guerre pour que tu ne puisses le faire à ton tour. D'autres hivers viendront, mais crois-moi, les plus mauvais sont ceux qui se cachent dans le cœur des hommes. Alors, une fois pour toutes, mes amis, choisissez la France du partage et de la solidarité, la France qui reçoit, accueille et remercie, pas celle qui divise et engendre des miséreux et qui rejette. Votez avec votre cœur pour celle qui est l'avenir de l'homme français, respectueux des valeurs que je partage.
Bonsoir Monsieur Mermet, bonsoir à toute votre équipe. Beaucoup d'humour hier lundi de 15h à 16h sur votre antenne. Merci pour votre talent, auditeur inconnu. Bon courage à vous tous. Plus que jamais, on a besoin de vous et on vous aime. Marthe à Andrézy. Elle est 78 ans, vous voyez, il y a quand même des vieux qui ont de l'humour. Merci, au revoir.
On croyait les personnes âgées dans l'ensemble acquises à Nicolas Sarkozy. Il n'en est rien. Du moins pas les pensionnaires de la Verte Vallée, une maison de retraite habituellement paisible que le candidat Sarkozy a été fort peu inspiré de visiter hier. Une véritable embuscade attendait en effet l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est d'abord par des cris et des injures qu'il a été accueilli par les pensionnaires lorsqu'il est arrivé dans la salle de goûter. Un dentier utilisé comme projectile l'aurait alors frappé au front. Puis M. Sarkozy, projeté à terre, s'est vu transformé en cible pour lanceur de compote à la petite cuillère. La victime, à ce moment-là, aurait alors reçu des coups de canne et de déambulateur. Les forces de l'ordre ont été obligées d'utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les émeutiers et libérer M. Sarkozy, qui a dû être transporté d'urgence au centre hospitalier le plus proche. Ses jours ne seraient pas en danger. Georgette, 103 ans, pensionnaire de la Verte Vallée, nous a déclaré, je cite, « Même si nous sommes continuellement branchés sur TF1, nous ne sommes pas dupes de la propagande de ce trou du cul. »
Nicolas Sarkozy vous aime. Nicolas Sarkozy vous fait des bisous dans le cou. Des petits bisous dans le cou. Nicolas Sarkozy vous aime.
Bah oui, vous aime, voilà. Vous voyez, c'est objectif, hein, c'est équilibré, ces messages. C'est pas facile, hein, dans le répondeur de la base, si j'y suis, pour trouver un peu d'équilibre. Alors, merci à cette auditrice qui dit il y a des vieux qui ont de l'humour, en effet. Bah, ça nous console un peu, parce que c'est vrai que lundi, il y aurait des auditeurs qui auraient dit que on aurait manqué de respect dans cette émission à l'un des candidats. Mais on s'inquiète pas du tout, puisque ce candidat, si on a bien compris, a déclaré ceci. Je le cite. « Il y a une tradition qui est celle de la caricature et de la critique. Je ne suis pas prêt à transiger avec cette tradition. Je tiens à apporter clairement mon soutien à qui, à sa façon, exprime une vieille tradition française, celle de la satire, de la dérision et de l'insubordination. » Fin de citation. Donc, on est tranquille, on est paré, et on va continuer donc à se balader les oreilles dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, en toute liberté. Et ensuite, eh bien, on va vous dire comment devenir riche. On a compris que, bah, finalement, c'est ça qui vous intéresse. Et puis, nous aussi, il est temps, vraiment, de retourner sa veste, là, vite fait, hein. Et comment devenir plus riche que riche? Comment s'en mettre jusque-là? Comment gagner des millions et des millions? Eh bien, là-bas, si j'y suis, va vous le dire d'ici 16 heures, très sérieusement, hein, très, très sérieusement. Vous allez voir des success stories, comment spéculer, comment s'en mettre jusque-là. Jusque-là, François Ruffin a tout compris, ce qui n'est pas facile, et il va tout vous dire, ce qui va être un bonheur pour tous. Enrichissez-vous, c'est notre thème du jour. Auparavant donc, vous avez compris, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Mais je voudrais, avant qu'on entende ces messages, remercier tous ceux qui nous ont reçus hier soir à Aix-en-Provence. C'était un bonheur total, c'était les AMG, le repère d'Aix-en-Provence, qui organisait une soirée à l'occasion de la sortie en avant-première du film We Feed the World, dont on a parlé dans cette émission. Et ensuite, il y a eu un débat à la suite de cette projection, très très heureuse, très stimulant. Et puis ensuite, on est allé boire un petit coup au Bulle de Guerre et Barister. C'est là que deux fois par mois se tient le repère des amis de là-bas, si j'y suis, les deuxième et quatrième mardis à 19h30. Et je vous laisse même le numéro de ce repère, c'est le 06 03 15 02 74 avec son Provence, 06 03 15 02 74. Merci à Jean-Paul, merci à Dany, merci à tous pour cette soirée. Des messages encore, puis le fric.
Allô, bonjour, je vous avais appelé il y a un an de cela déjà pour vous dire qu'il y avait un de mes amis africains, Raphaël Mensa, dit Spring, qui avait été agressé par une bande de skinheads à Bruges. C'était donc en avril, il y a un an. Et je vous avais dit qu'il était resté pour mort par terre, mais il était resté en fait dans le coma pendant plusieurs mois. Il est sorti du coma au mois de juin environ. Ensuite, il est resté à l'hôpital à Paris, il a été rapatrié. Il est sorti de l'hôpital en décembre et il est mort la semaine dernière. Donc je voulais vous dire que demain à 8h30 va avoir lieu la levée du corps qui va se passer à l'Institut Médico-Légal, métro Quai de la Râpée. Voilà. Spring va être enterré à Lomé, au Togo, dont il était originaire. Allez.
Dès les élections hier, je voulais t'appeler, mais j'attendais d'écouter le répondeur pour entendre tous nos citoyennes, les citoyens. Et ben, je suis déçu, vraiment déçu de ces campagnes, parce que ça, un mois ou deux avant, ça parlait déjà de sondages, ils arrêtaient pas tout le monde. La presse avec ses sondages à la con. Du coup, les gens, ils ont pas voté avec leur conviction. Ils ont voté selon les sondages, puisque depuis des mois que ça donnait Sacco à 30,5, Ségolène 25,5. Ils arrêtaient pas le barbier et puis tous les autres. Et les gens, tu vois, c'est ça qui me déçoit, le peuple, du coup, bah, puisque les sondages disent Sacco à 30, la Ségolène à 25,5, et puis le Bérou entre 16-18, et puis tout le monde était convaincu, même ma camarade, elle était convaincue que c'était ça, et puis qu'elle disait, tu vois, ils sont pas trompés, et puis je l'ai dû le rappeler, que, bah, tu vois. C'est que le problème, c'est que tout le monde a voté selon le sondage et pas selon leurs convictions. J'ai voté pour mes convictions et du coup, je sais même pas si je vais donner mon vote à la Ségolène parce qu'elle le mérite même pas. Parce que ce que l'Arlette et l'Olivier et tous les autres sont demandés à voter pour elle, elle va pas faire même pas un seul truc de leur programme, même pas un.
Voilà, Daniel Mermet. J'ai peur avec votre équipe que vous vous trompiez d'ennemis. J'ai écouté le répondeur d'aujourd'hui, mardi à 13h, et je trouve que vous n'avez passé que des messages ou pro-Sarkozy ou pro-abstention. Méfiez-vous, l'extrême gauche rejoint l'extrême droite dans ces cas-là, et avec ça, vous allez faire élire un Sarkozy avec son état UMP et un parti unique. Et, même si Ségolène n'est pas parfaite pour nous, elle est quand même encore un petit peu de gauche. Et de toute façon, elle ne représentera pas un seul parti, un seul État. Alors faites très très attention, parce que pousser à l'abstention, c'est drôlement... ça fait peur, quoi. Merci, au revoir.
Bonjour, dimanche 29 avril à partir de 12h, le réseau Éducation sans frontières du 10e organise un grand repas multiculturel, cours des petites écuries, tout près du QG du candidat Sarkozy. Le réseau Éducation sans frontières, les associations de quartier, les résidents, avec ou sans papier, et tous ceux qui souhaitent dire non à la politique menée envers les familles sans papier, se retrouveront tous ensemble autour d'un grand buffet de la fraternité. Un moment de rencontre et de partage pour dire non à un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Le principe est simple. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, faites-nous découvrir une de vos spécialités que vous préparerez pour quelques personnes. Vous pouvez consulter le site Réseau Éducation Sans Frontières, www.réseaueducationsansfrontières.org et en profiter pour signer la pétition « Laissez-les grandir ici ». Le réseau Éducation sans frontières du 10e vous invite tous à les rejoindre dimanche. Bien fraternellement, Sophie pour le réseau Éducation sans frontières du 10e. Au revoir.
Nicolas Sarkozy vous aime. Nicolas Sarkozy vous fait des bisous dans le cou. Des petits bisous dans le cou. Nicolas Sarkozy vous aime.
Dépêche de l'AFP sur Le Monde du mercredi 25 avril 2007. Le MEDEF ne prendra pas position. Laurence Parisot, présidente du MEDEF, a indiqué lundi 23 avril à Lyon que l'organisation patronale ne prendrait pas position pour M. Sarkozy ou Mme Royal pour le second tour, car les candidats étaient tous deux favorables à l'économie de marché. La différence entre Mme Parisot et moi, c'est qu'elle a l'embarras du choix et moi, l'embarras du non-choix.
Salut à tous, un petit message pour rappeler aux AMG jurassiens de Dole et de ses environs que ce jeudi 26 mars à partir de 19h se tiendra notre café repère, comme chaque dernier jeudi du mois, au Connemara, avenue du Maréchal Juin à Dole. Donc il n'y aura pas de thème particulier, mais je pense qu'on aura pas mal de choses à dire quand même. Allez, salut, bonne journée à tous.
Salut Daniel, Hervé de Vesoul. Ce soir au Majestic à 20h, les amis du cinéma se changent un peu les idées. Pas d'élection présidentielle, mais le très beau film de Jacques Rouault, L'Ellipse, l'imagination au pouvoir. Pour le présenter et débattre avec le public, l'excellent Charles Piaget. Les leçons de l'histoire pour nourrir l'espoir. À ce soir, Majestic, Vesoul, 20h. Merci.
Depuis dimanche, le vent du matin amène une légère odeur de merde. Luttons. Au revoir, Daniel.
Nicolas Sarkozy vous aime. Nicolas Sarkozy vous fait des bisous dans le cou. Des petits bisous dans le cou. Nicolas Sarkozy vous aime.
Chaque jour, vous avez une espèce de d'explosion, un spasme.
Toujours être là où il faut. Avoir à sa portée les dernières nouvelles des marchés du monde entier.
Vous avez le côté rationnel qui vous dit « Ok, j'ai un gain, clôturons la position. » Et puis il y a le côté mauvais de soi-même qui vous dit « Non, non, reste dans la position, ou augmente la taille de la position. » Donc, pour le trader, c'est en fait une véritable travail personnel pour essayer en fait de domestiquer ces mauvaises pulsions.
Il est bullish, il est bearish, un chandelier bullish, hein, une tendance bullish ou une tendance bearish, c'est une tendance baissière, etc.
Vous êtes plutôt bullish ou plutôt bearish?
Moi, je suis plutôt bearish sur le CAC.
Vous avez une espèce d'explosion, un spasme. Paf.
Côté valeur, l'actualité s'avère plutôt fournie avec une avalanche.
Salut, c'est la baisse, j'y suis, Daniel Mermet, avec François Ruffin, plus riche que riche.
Flight number 2, arriving from... Bon, vous savez, nous on a créé le salon il y a déjà 8 ans maintenant. C'est quand même un bon moment. Donc on a tous les courtiers qui viennent, les principaux courtiers. Donc on a des courtiers qui font comment ça s'appelle, des marchés américains, très vifs, très trading, à fort effet levier, du forex. On a également des gens qui font des varans. Des varans aussi, c'est très trading, c'est beaucoup de trading, du day trading. On a comme ça d'autres produits, donc les varans Commerce Banque, les varans Société Générale, Click Option, et puis alors beaucoup, les plus gros courtiers sont venus avec nous, Boursorama, Cortal Consors, Dubu, vous l'avez vu, des courtiers Forex. Voilà. Donc vous avez même des Italiens, beaucoup de Suisses également qui s'inscrivent. L'idée, présenter aux gens quelque chose qui leur permet d'apprendre une recette, une technique, une méthode. C'est ça l'idée avant tout. Donc, vous avez pu voir, tout à l'heure j'ai fait ma conférence, là c'est Steve Leeson en ce moment qui fait sa conférence, l'après-midi il y aura Raggy Horner, il y aura du trading sur Forex, etc. Il y en a eu 7 avant, on a eu Bollinger, on a eu Bob Prechter, on a eu Glenn Nelly, on a eu Richard Arms, on a eu plein, tous les plus, Linda Bradford-Rajke, tous les plus grands de l'analyse technique et du trading dans le monde, on va les finir. Je pense qu'aujourd'hui il doit y avoir encore que peut-être Alexander Elder, qu'on n'a pas fait venir, pour les puristes, un peu, les gens qui sont un peu pointus connaissent ça.
C'est donner les instruments en fait, à tout, à chacun, à tout le monde,
oui.
De faire du trading de manière plus scientifique.
Voilà, tout à fait. Quand les gens ont bien compris ça, après ils se mettent réellement à la bourse. Et c'est ces gens-là qui sont intéressants à développer.
Alors c'est la bourse, mais c'est la bourse à court terme. Là. C'est du day trading, au jour le jour, on a vu des démonstrations 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure.
Oui, c'est vrai.
C'est un investissement à court terme.
Alors regardez, de toute façon, quand vous avez un marché, comment ça s'appelle, un courtier Forex, alors vous avez...
Forex, c'est quoi?
Bah, Forex, c'est Foreign Exchange, c'est-à-dire c'est le marché des devises. Ça, c'est le marché très à la mode aujourd'hui et tous les gens qui sont un peu pointus commencent à faire du Forex.
Carrefour gagne 0,21%.
Rien, vous n'y comprenez rien. On est en train de regarder nos écrans de contrôle. Eh bien, 78,17% des auditeurs de là-bas, si j'y suis, ne comprennent rien au sabir que l'on vient d'entendre. Et c'est très grave, parce que c'est bien là ce qui vous empêche de vous enrichir. Il est grand temps pour vous d'apprendre à trader sur le Forex, d'apprendre à gérer des stocks de protection, d'apprendre tout sur les varans, de vous initier à la pratique des chandeliers japonais, maximiser les profits potentiels de chaque trade sur le momentum trading. Et oui, il est grand temps, le vent tourne, les temps changent, il faut s'adapter. Alors aujourd'hui, avec François Rupfin, nous allons au salon du trading à l'espace Cardin, 1 avenue Gabriel à Paris. On remonte un petit peu dans le temps, c'était le 23 mars, mais là-bas, si j'y suis, est toujours en avance. Et nous allons vous faire découvrir le monde enchanté du trading et qui sont ces traders. Qu'est-ce que ça veut dire, trader ? Eh bien, ça veut dire intermédiaire financier qui réalise des opérations de placement ou de spéculation. On devrait dire en français opérateur de marché, mais quand même, trader, c'est quand même beaucoup plus chic. Et peut-être que grâce à nous, d'ici à 16h, vous apprendrez, comme je vous l'ai promis, à devenir plus riche que riche. Tant il est vrai que, par exemple, un monsieur comme Dries Ben Brahim de Goldman Sachs à Londres est quelqu'un qui gagne autour de 110 000 euros par jour de façon très très régulière. Il faut peut-être rappeler aussi que la moitié des Français disposent d'un niveau de vie inférieur à 1315 euros et de 1975 euros pour un couple, que 6,86 millions de Français vivent au-dessous du seuil de pauvreté, qu'en 3 ans, la moitié des chômeurs ont perdu leurs indemnités, tandis que le nombre de smicards augmentait de 21%. Quel rapport, me direz-vous, entre ces riches mirobolant et formidable, c'est Golden Boys que nous allons rencontrer Et ce que je vous dis là, y a-t-il un effet de vase communicant? Autrement dit, les spéculateurs, la spéculation vivrait-elle au détriment du bon peuple que nous sommes? C'est bien possible et on essaiera en tous les cas de se le faire expliquer. Vous avez compris, nous allons à la rencontre des vampires, mais dans notre main, nous serrons très fort une gousse d'ail sur laquelle on peut lire ceci. Pour aimer les hommes, il faut détester fortement ce qui les opprime. Jean-Paul Sartre.
Des années que l'équipage voguait heureux, lancé sur l'hémisphère de la carte bleue. Il battait pavillon visa premier, frôlé par des condors argentés. Des puces électroniques surveillaient sans mal les murailles de lingots tressées dans la cale. Poussé par le vent des marchés, la coque passait entre des récifs de chiffres carrés. Jamais l'opulence n'expirait, une signature au dos de la carte suffisait à pousser le navire loin des rades. Ils avaient le code secret et la parade, là où ils mouillaient, dans des golfes sûrs, dans le calme des baies, les doigts sur le clavier, à l'abri des regards indiscrets. L'équipage hilar faisait gicler la monnaie. Sur une mer d'huile bien vernie, mieux valait entretenir de bons amis. Lâcher des pourliches aux institutions financières, s'entendre avec une poignée de corsaires. Les navires s'offraient de royales escales, où les hôtesses psalmodiaient le nom des capitales. Et le navire cinglait vers de plus riches océans, où les vents soufflent à crédits illimités. Déchiquetèrent les voiles, une tempête se levait sur les places occidentales. L'équipage à découvert sous l'ouragan voyait refluer toutes les vagues de paiement. La carte bleue se fissurait à l'horizon, dans les cales les puces piquaient comme des scorpions. Des condors désargentés hurlaient dans le ciel, une peur bleue leur serrait la rondelle. Les membres d'équipage écopaient le liquide de cache, la caméra.
Pourquoi vous voulez faire du forex, monsieur ?
Eh bien, j'hésite à faire du forex. Moi, je suis un particulier et j'hésite à faire du forex car j'ai l'impression que je ne suis pas de taille à lutter contre des professionnels qui traitent, m'a-t-on dit, 3 000 milliards de dollars par jour avec certainement des super génies.
Et vous intervenez sur quoi pour l'instant, vous ?
Euronext.
Euronext.
SRD
quand même. Vente à découvert.
J'en ai fait un peu.
Un peu. Donc vous progressez tout doucement.
Avec BNP Paribas, il y a 15 jours. D'accord. Avec Renault, il y a 15 jours.
Pas de futur encore. Parce qu'on peut vendre à découvert. On est dans un marché où on essaye de jouer vraiment toutes les finesses du trading et même vendre alors qu'on n'a rien. Je n'ai rien. Alors ça, pour les gens classiques sur les actions, ils ne comprennent pas. Mais je n'ai même pas d'action France Télécom. Je commence par en vendre. Comment vous faites ? Ben, je vends. Je dis à mon courtier, j'en vends. Je pense que ça va baisser. J'en vends. Vends 500 France Télécom. Et ensuite, le but, c'est de déboucler sa position en rachetant sa position. Donc, on considère d'abord les actions classiques, le SRD, le futur, et le marché roi quand même, le vrai marché quand même, c'est le Forex.
Le Forex, c'est achat de dollars contre
c'est les devises. Voilà, absolument. C'est les devises. Et aujourd'hui, et grâce à un salon comme aujourd'hui, on vient prêcher la bonne parole et dire que le Forex est enfin à la portée de tout le monde. C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, qui est très dynamique. Donc, quelqu'un va acheter à 9 heures. Là, dans cet exemple, on a acheté vers 10. Donc, ici, on a acheté donc en date valeur 27. On l'a acheté ce matin vers 10 heures. On a acheté 500 000 euros yens. à 156,53 et il est maintenant pas loin de midi, je pense, et on a déjà gagné 135 000 yens. Ça représente à peu près 1145 dollars, 1000 euros. Quelqu'un de normal va déboucler sa position maintenant, voilà, au bout de deux heures, et prendre son profit.
Alors, derrière vous, il y a une affiche, c'est marqué Bullish Attitude, donc l'attitude du taureau avec un taureau qui est représenté.
Ouais.
C'est l'attitude que vous recommandez pour...
Alors, c'est un peu agressif, hein. C'est un courtier agressif, etc., qui essaye de...
Le courtier répond qu'il est plus dynamique qu'agressif, plus pour la dynamique que pour l'agressivité.
Bullish, c'est l'aspect taureau, c'est haussier, c'est le symbole des haussiers aux États-Unis, symbole américain. Et le symbole baissier étant bearish, c'est-à-dire les ours qui sont lourds et qui pèsent sur le marché, etc. Donc souvent, vous entendrez ce type de remarques, il est bullish, il est bearish.
Alors, derrière vous, il y a le taureau. Pour vous aussi, c'est un sport, le trading?
Oui, c'est un sport. Les gens, je me souviens d'une vieille mamie, là, de 86 ans, qui me disait faire du trading sur Nasdaq, des allers-retours, du day trading sur Nasdaq, tous les soirs, était devant son écran, etc. Ça paraît un peu surprenant, mais on voit que les gens s'y mettent de plus en plus, parce qu'on peut être très bien assis derrière son bureau et tout à la fois vivre une certaine aventure.
Prêcher la bonne parole. Voilà ce que fait André Malpel, cet organisateur de ce salon d'analyse technique et de trading. André Malpel, c'est véritablement le missionnaire des marchés financiers qui va enseigner à toutes les nations, à chacun, le bonheur, la chance de ce que vous avez déjà compris, qui n'est rien d'autre que une sorte de secte, un monde avide et cupide, celui du profit fou. Bon, bah vous dites, on va passer une heure dans un genre de casino de Las Vegas avec des gens un peu la même chose, quoi, des gens un peu addicts qui font du pognon. Mais y a-t-il un système de vases communicants? Est-ce que ces spéculations, oui ou non, se font au détriment du bon peuple que nous sommes. Nous sommes évidemment le bon peuple. Et au détriment de l'économie. Est-ce que plus les uns, ceux-là, s'enrichissent, est-ce que ça fait que les autres s'appauvrissent? Alors avant de continuer ce reportage, c'est pas mal de l'éclairer avec une sorte d'avertissement, d'éclairage a priori, comme ça, continuer le voyage, la balade, avec Dominique Plion. Dominique Plion, il est prof d'économie, il est président du conseil scientifique d'ATTAC, et il a longuement réfléchi sur ces questions, la question étant, y a-t-il un effet de parasitage? Le spéculateur est-il ou non, monsieur Plion, un parasite?
Monsieur Dominique Plion, vous êtes professeur d'économie. Vous êtes par ailleurs président du conseil scientifique d'ATTAC.
Tout à fait, oui.
Je me suis rendu il y a une dizaine de jours au salon du trading. Et il apparaît qu'il y a un jeu sur les monnaies, un jeu sur les actions, un jeu sur les contrats futurs. Mais est-ce que tout ça, c'est juste un casino complètement détaché du monde? Ou bien est-ce que ça a des conséquences sur le monde social, sur le monde économique? Est-ce qu'il y a un lien entre ces spéculateurs et, par exemple, les salariés précaires?
Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un lien très, très fort, qui évidemment n'est pas toujours visible par les traders eux-mêmes, puisque eux voient ça à leur niveau, ce que nous, économistes, appelons le niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des opérations individuelles, et ils ont le sentiment, vraisemblablement, que la spéculation qu'ils mènent n'a pas beaucoup d'effet sur le reste de l'économie. Mais en fait, c'est complètement erroné comme conception. Je voudrais reprendre tout simplement l'analyse qui me paraît la meilleure de la spéculation, qui est celle qui a été proposée par John Maynard Keynes. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit finalement, dans la sphère économique, au sens large, il y a deux types d'activités. Il y a ce qu'il appelle l'activité d'entreprendre, c'est-à-dire c'est des entrepreneurs qui prennent des risques en mettant de l'argent pour acheter des matières premières, acheter des machines, payer des salariés pour produire de la richesse, c'est-à-dire des biens, des services, pour bien sûr la revendre avec un profit. Et ce profit rémunère d'ailleurs les risques qu'ils prennent, comme tout entrepreneur. Et Keynes explique aussi qu'à côté de cette activité d'entreprendre, il y a l'activité de spéculer, qui est un groupe d'acteurs très différents qui, eux, cherchent à gagner de l'argent en menant une activité qui n'a aucun rapport direct avec la sphère productive, avec la sphère de production de richesse, qui consiste simplement à jouer à la hausse ou à la baisse des prix Par exemple, les prix des monnaies, c'est ce qu'on appelle les taux de change, les prix boursiers, les cours de change, mais ça peut être aussi la spéculation immobilière. Alors cette activité-là, elle a un rapport direct et souvent négatif avec l'activité d'entreprendre. Pourquoi ? Eh bien, quand on spécule, c'est-à-dire qu'on prend des ressources financières qu'on ne consacre pas à l'activité d'entreprendre. Donc, si vous voulez, déjà, il y a un choix. Et plutôt que d'encourager la production de richesses et d'augmenter le bien-être de la population par plus de biens et de services qui sont créés, on préfère utiliser cet argent pour spéculer. Il y a une diversion, il y a une activité qui est parasitaire, on pourrait dire aussi, qui s'exerce sur l'activité.
Le groupe fabricant de cigarettes Altadis, l'ex-Seita, a confirmé mardi la suppression de 700 emplois. Les salariés protestent contre ce qu'ils appellent des licenciements boursiers, soulignant les hausses des bénéfices de la société depuis deux ans.
Colère des syndicats contre Michelin, qui fait de gros bénéfices et supprime 7500 emplois.
Veillée d'armes chez Moulinex. 1100 emplois sont menacés, nombre de salariés sont choqués.
Il apparaît qu'aujourd'hui, les actionnaires retourne leur veste, je crois qu'on peut le dire comme ça.
À Lannion, Alcatel a prévu de sacrifier 1400 emplois d'ici la fin de l'année. Ici, c'est Mitsubishi qui taille dans ses effectifs.
À la raison de notre colère, elle se résume en quelques chiffres. ST Microélectronique, 9 milliards de chiffre d'affaires, 1 milliard de bénéfices, 40% de marge brute. Et ST licencie 600 personnes à Rennes.
Mais il y a plus grave. Lorsque les gouvernements des pays en voie de développement s'endettent à l'international, par exemple en empruntant du dollar, pour financer leurs importations ou pour financer un déficit budgétaire, par exemple. Bon. Eh bien, après, ils sont à la merci de la spéculation internationale. Pourquoi ? Ben parce que les investisseurs vont venir acheter, par exemple, leurs bons du Trésor, vont venir acheter leurs dettes, mais s'ils ne sont pas satisfaits des rendements qu'on leur donne, par exemple, ou s'ils ont une inquiétude sur, par exemple, la stabilité d'un gouvernement, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont immédiatement déplacer leur argent, vendre les titres et quitter le pays pour aller sur un autre pays qui leur inspire davantage confiance ou où ils espèrent des rendements meilleurs.
Par exemple, c'était le cas en Argentine.
Ah ben ça, c'était le cas en Argentine, mais c'était le cas aussi au Mexique en 94-95, en Russie en 1998. En Asie du Sud-Est, il y a eu une grande crise en 97-98, d'ailleurs, qui est à l'origine de la naissance d'attaque, hein, qui est née comme en réaction contre cette spéculation internationale qui était dévastatrice pour les pays. Par exemple, en Indonésie, il y a eu des millions, des dizaines de millions de travailleurs dans les villes, les grandes villes, qui ont été jetés à la rue parce que les entreprises avaient fermé leurs portes, parce qu'elles avaient été totalement déstabilisées par la spéculation internationale, c'est-à-dire le fait que les investisseurs avaient mis de l'argent dans ces entreprises et s'étaient retirés brutalement pour prendre leurs bénéfices. Et donc, ce que ne voient pas ces spéculateurs, et ce qu'ils ne veulent pas voir d'ailleurs, probablement, c'est que leur activité, en fait, peut avoir un coût pour la société absolument considérable. Pas à chaque fois, évidemment, mais quand les affaires tournent mal. Parce que, en fait, ce qu'on sait bien aussi, c'est que les spéculateurs ont un comportement grégaire et mimétique. C'est-à-dire qu'ils vont tous dans le même sens au même moment.
Vous voulez analyser le comportement des acteurs à la fermeture des marchés ? Savoir comment ils modifieront leur jeu demain ? Faites confiance aux spécialistes.
Vous voulez un compte-rendu de la séance ? On s'en charge.
Tout à vos bourses à 17h30 sur Bloomberg Télévision.
On est en fait confronté au dédoublement de sa personnalité. C'est-à-dire, vous avez le côté rationnel qui vous dit « Ok, j'ai un gain, clôturons la position, fermons la bécane et allons faire un tour avec les enfants. » Et puis il y a le côté mauvais de soi-même qui vous dit « Non, non, reste dans la position ou augmente la taille de la position. » Donc, pour le trader, c'est en fait une véritable, un véritable travail personnel pour essayer en fait de domestiquer ces mauvaises pulsions.
Donc vous dites, si on joue scientifiquement, en se contrôlant psychologiquement, en jouant 10 minutes à une demi-heure par jour, on parvient à doubler son capital en un an.
Mais vous voyez comme ça a bougé, on était à plus 95, maintenant on est à plus 155.
C'est-à-dire que là, la bourse, elle descend, et vous gagnez quand même de l'argent.
Oui, parce que j'ai vendu à un prix élevé en vue de racheter à un prix inférieur. Quoi. Donc ça s'appelle vendre à découvert ou vendre short dans le jargon un peu anglo-saxon. Vous voyez, ça va dans notre sens. Donc.
Là, on a 215 euros.
Ouais.
Ça, c'est pour un investissement de combien ?
1500 euros.
Donc là, on est à 225 euros. Donc là, vous avez un rendement qui est déjà de 15% en 20 minutes.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Chaque jour, vous avez une espèce d'explosion, un spasme. C'est comme si vous jetez une pierre dans l'eau. Le marché est très... Je vais vous montrer, il y a deux jours, le marché s'est un peu emporté. il a fait un gain énorme en quelques secondes, hein, mais vraiment, parce que je vais juste montrer la taille, quoi. Voilà, cette immense bougie qui représente, allez, si je prends tout ça, ça représente 140 points en l'espace de, je sais pas, 10 minutes. Une personne qui aurait été positionnée sur le CAC, elle aurait capturé 840 en 10 minutes.
840 euros, ça veut dire là un rendement de plus de 60% en 10 minutes.
Ouais.
Et vous, vous y étiez positionné à ce moment-là ?
Et moi, j'étais positionné.
Donc ouais. vous avez gagné les 840 euros ?
Moi, j'ai gagné. Moi, j'avais gagné 700 euros. Mais une fois de plus, je dirais, il faut pas se focaliser sur l'aspect argent. Il faut se focaliser sur l'aspect bonification de soi-même. Quelqu'un qui a trop d'ego, par exemple, peut pas réussir. Parce que le marché n'a pas de chef. Et lui peut pas tout seul aller se mettre face au marché et essayer de faire gagner son trade face à tous les autres. Donc c'est aussi un exercice d'humilité, quoi.
Voilà, c'est pas l'église de Scientologie, c'est pas un témoin de Jéhovah, c'est pas une religion véritablement, c'est pas un prêcheur que vous venez d'entendre, mais ça y ressemble pas mal. C'est un militant de la spéculation libérale, un type tout à fait sympathique qui s'appelle Pascal Hirtz et que nous rencontrons dans ce salon qui s'est tenu fin mars, salon d'analyse technique et de trading. Pourquoi ça ? Parce qu'il est grand temps, amis auditeurs de la base J Suite, de comprendre dans quel monde vous vivez, vous êtes archaïque, vous êtes en retard, etc. Et il est grand temps d'optimiser votre portefeuille, d'améliorer vos résultats, d'échafauder un scénario d'intervention, et puis surtout essayer de déterminer les retournements de marché et repérer les signaux ou points d'entrée les plus appropriés, ou encore trouver là où les méthodes d'intervention les plus adéquates, bien évidemment, c'est ce que vous attendez de nous et d'une radio comme France Inter, c'est vous permettre de vous enrichir. Alors on continue donc dans ce salon avec Pascal Hirtz.
Le nom de votre société, c'est Self Invest.
Ouais,
donc
ouais.
Investis toi-même en français.
Ben, le trading s'est beaucoup démocratisé parce qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, les métiers de gestion, les métiers de courtier, de prendre l'or de son client, tout ça c'était en fait géré par les mêmes maisons, quoi. Et puis il y a eu une déréglementation dans les années 70, 80, et l'internet à la fin des années 90. Maintenant n'importe qui peut ouvrir un compte.
Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu un mouvement politique de déréglementation et puis un mouvement technologique. Et c'est ce deux mouvements-là qui a permis la démocratisation de...
Si on veut, oui, on peut dire ça comme ça.
Finalement, c'est la spéculation au jour le jour, ce trading.
Oui. À la limite, notre client fait la même chose qu'un hedge fund, hein, qu'un gérant de hedge fund. La seule chose, c'est que chez nous, il va le faire à une petite échelle et le hedge fund va le faire à une grande échelle.
Et quand il y avait des propositions à un moment de dire il faut taxer la spéculation, qu'est-ce que vous en pensez ?
Comment dire, c'est la réaction, on va dire, typique des gens un peu ultra-gauche. Je dirais qu'ils comprennent pas grand-chose à l'économie. Enfin, qu'ils voient du mal où il n'y a pas de mal, quoi. Si leurs recommandations étaient appliquées, grosso modo, qu'est-ce que ça ferait ? Ça ferait soit l'argent va ailleurs, moins d'investissement, moins de prospérité à long terme, quoi. En fait, l'être humain, il est naturellement créateur de richesses. Tant que, je dirais, tant qu'il n'y a pas d'inflation, tant qu'il n'y a pas de guerre, et tant que l'économie n'est pas étouffée par l'État, la richesse s'accroît.
Est-ce que vous voyez des risques aujourd'hui que, avec la campagne présidentielle et tout ça, que l'économie soit un peu étouffée par l'État ? Il y a des mesures qui vous font peur ?
Ben, je dirais que... bon, il y a une chose qui, à mon avis, que nos zones politiques n'ont pas compris, c'est en France, par exemple, au niveau de tout ce qui est imposition, si ce niveau de taxation était baissé, mais massivement, pas d'1% ou 2, mais si on passait, je ne sais pas moi, de 38 à 28, ce qui a été fait dans plein d'autres pays. Mais les gens se lanceraient. Si on baisse ces fameux impôts, etc., la France, c'est comme si elle devenait soudainement un aimant pour tous les investissements. Et ça contribuerait alors à la croissance. C'est comme ça que la croissance se crée, quoi.
Mais alors, est-ce que vous voyez une candidate ou un candidat qui propose quelque chose qui pourrait aller dans votre sens ?
Allez, les deux, le Sarkozy et le Bérou, on va dire, sont le plus, ils sont un peu à mi-chemin vers ce que je dis, quoi. Ça reste quand même encore la vieille mentalité
Ils n'osent pas dire les choses clairement, de peur de...
Je crois que intellectuellement, les idées n'ont pas pénétré le pays. Ces idées-là, elles étaient minoritaires en 1960. Mais il y a des gens comme Milton Friedman, Hayek. Et ces idées libérales, en France, elles sont en totale minorité, quoi. Allez, je pense que Sarkozy et Bayrou, ils ont bien compris qu'il est temps de changer. Ils vont essayer de faire un changement dans le sens que moi, qui a ma préférence.
Oui, ils peuvent pas annoncer la couleur. Ils sont presque forcés.
Ou alors c'est tactique. Ou alors c'est tactique, ouais. Ou alors ils n'osent pas trop annoncer, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Allez, ça c'est juste une question de courage. Hein. Il faut une fois expliquer ça aux Français. On va dire, le détonateur, c'est la baisse des impôts. Il n'y a pas photo. Ben, la France a besoin d'ouverture. Il y a trop de gens qui sont dans la fonction publique. Il y a trop de gens qui ne sont pas assez ouverts. Et alors, vous êtes...
On travaille à la rédaction. Moi, j'ai rédaction.
Ouais.
Vous êtes... un peu plus de finances.
Ouais.
Bon, parce qu'il y a Jean-Marc Sylvestre.
Oui. Ouais.
Il y a Brigitte Jean-Perrin. Je ne sais pas si vous en pensez. Jean-Marc Sylvestre, Brigitte Jean-Perrin, c'est quand même...
Non, ça va dans le bon sens. Et il y a aussi quelque chose qui est pas mal. C'est le dimanche matin.
Samedi matin. Rue des Entrepreneurs.
Rue des Entrepreneurs, c'est pas mal aussi. Il y a un mouvement au niveau des idées. Ce mouvement, il est inexorable. Il est en train de contaminer tout le monde, mais je dirais dans le bon sens, quoi. Au niveau des idées, ça commence un peu à aller un peu plus vers la droite, mais c'est aussi parce que les gens y voient, et seulement il y a juste la France est un peu imperméable. C'est très intéressant, vous devriez une fois aller, une idée de reportage, aller une fois dans une librairie, prenez un petit échantillon de vraiment les auteurs libéraux, Hayek, Milton Friedman, de temps en temps on en voit un. Mais allez voir tous les autres livres qui cognent sur le capitalisme et des étagères pleines, quoi.
Et là, la théorie, c'est toujours été un peu aux mains des marxistes.
Ouais, quoi. En plus, quoi.
Ah oui, faut vous méfier de l'imprimerie, hein. Mais je vous signale, en toute objectivité, un numéro du Point, Le Point, un hors-série, avec les textes fondamentaux du libéralisme, présentés par Nicolas Babrez, Raymond Boudron, Lucien Jaume et Jacques Marseille, avec des textes de Smith, Tocqueville, Hayek, etc. Et pour édifier votre connaissance et votre conscience sur ce qu'est véritablement le libéralisme. Mais à cela, il manquera tout de même la dimension un peu magique, la dimension psychologique. Eh oui, psychologisons la vie un peu plus et puis enrichissons-nous psychologiquement avec André Brignone, rencontré dans ce salon d'analyse technique et de trading.
Être en forme, j'appelle ça la juste attitude, c'est-à-dire une attitude de vide mental permettant d'agir sur le marché. Si vous êtes en train de trader et que vous vous dites « je risque de perdre l'argent de mes vacances en ce moment si jamais ça ne va pas dans le bon sens », vous êtes fichu dès l'origine. Pour cela donc, il y a toute une série, je dirais, d'entraînements qui permettent, si vous voulez, en utilisant la respiration, en utilisant certaines techniques de décontraction rapide, en utilisant des techniques de reprogrammation du cerveau qui vous mettent dans la bonne attitude, vous permettant de réagir exactement, de réagir quand il le faut. De nombreux traders agissent, font tous leurs plans de façon complètement décontractée et au moment d'arriver à l'action, ils sont affolés parce qu'ils voient le marché qui part dans un sens, ils se jettent dessus. Toujours pour ceux qui ont suivi mes conférences, vous savez comment vient l'affolement dans le système, comment le cerveau va petit à petit vous bloquer totalement pour vous faire faire ce que vous ne devez pas faire. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Il ne faut pas oublier que l'aspect psychologique a une énorme importance quand les marchés deviennent très volatiles, deviennent très mouvementés et très brusques. Voilà, comme on dit au Théâtre des Deux Ânes, soyons fins et printaniers. Merci, posez les questions maintenant si vous voulez.
Donc, vous êtes un spécialiste, monsieur, de la psychologie des marchés.
Oui, qu'est-ce que c'est que la psychologie de l'investisseur? L'investisseur, il a besoin d'avoir une certaine attitude vis-à-vis du marché. Cette attitude doit être une attitude d'un certain détachement qui lui permette de se mettre exactement en phase avec le marché. Donc, si vous voulez, ce que nous essayons de faire, c'est d'orienter les gens à travers nos livres, à travers les conférences, à travers un certain nombre de choses, vers l'acquisition d'une attitude que nous appelons la juste attitude et qui permette de se mettre exactement en phase avec le marché, parce que le marché a un énorme inconvénient. Non seulement il peut atteindre votre capital financier, mais il peut atteindre votre capital santé.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire, quand un trader a, par exemple, brutalement une baisse alors qu'il était à la hausse, il va ressentir un choc psychologique très très important. Petit à petit, son humeur va changer, il va se transformer, il va avoir des problèmes avec sa famille, il va y avoir toute une série de conséquences qui vont arriver du fait, si vous voulez, de la mauvaise gestion du mouvement de marché vis-à-vis de soi-même.
Et donc, comment il faut ouvrir une cellule d'écoute psychologique ? Comment on fait
pour... Pas du tout. On se prend en main. Et c'est pour cela que mon livre s'appelle en particulier « Le Tao de la bourse et du trading », parce que c'est une attitude... Vous vous transformez petit à petit, vous vous formez en quelque sorte à avoir un comportement psychologique qui est adapté exactement à celui du marché. Et à ce moment-là, vous vous faites une danse avec le marché, c'est-à-dire que vous dansez dans la bonne mesure et avec le bon tempo.
Comment je peux faire, moi, pour devenir en phase avec le marché ?
La première chose à faire, c'est prendre conscience de son propre comportement. Et ensuite, il existe toute une technique à la fois de relaxation, de reprogrammation de son cerveau, de reprogrammation de son comportement, pour pouvoir petit à petit, exactement si vous voulez, comme un judoka va devenir un intuitif en quelque sorte du mouvement de l'adversaire, vous allez devenir un intuitif du mouvement du marché. Vous-même, vous aurez intégré la danse du marché.
Et c'est parce que vous avez rencontré dans votre entourage, dans vos proches, des gens qui ont eu des gros coups au moral ?
Absolument. J'ai rencontré, ma femme fait du trading d'une part, moi-même je fais du trading, mais en plus de ça, si vous voulez, j'ai rencontré un certain nombre d'amis qui avaient d'énormes problèmes et petit à petit, j'ai commencé à réfléchir comment modifier ce comportement. Ça demande, si vous voulez, la remise en forme d'un trader qui a eu de gros chocs, demande en gros 2 mois.
C'est-à-dire que le fait d'avoir subi un échec, après on a la peur, c'est comme quand on est tombé à vélo ou quand on est tombé au ski. Absolument. On a peur de se remettre sur le marché.
Absolument. Et ce qui est plus grave, c'est que le marché vous donne toute une série de coups souvent. Et donc quand vous arrivez à ramasser 1 coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, vous vous remettez vous-même en question. Le plus grave, c'est que le trading vous remet en question votre propre personnalité à vos yeux. Et c'est là où vous commencez à vous détruire petit à petit.
Vous avez déjà la pipe du psychanalyste. Vous ne comptez pas ouvrir un cabinet ?
Pas du tout. Mais enfin, je fais déjà du coaching d'investisseurs. Ça, c'est autre chose.
De plus en plus, ça devient le métier de banquier. Les banques sont entrées en force, montent en puissance sur cette activité parce que les autorités de réglementation doivent encore donner leur aval à gagner plus de 13%.
Un petit peu la campagne électorale
sur le domaine politique, j'ai une petite anecdote à vous donner. C'est ma plus grosse perte en bourse. Elle a eu lieu en 1995, à l'été 1995, quand Alain Madelin s'est relativement chamaillé à Brégançon avec Alain Juppé. Alain Madelin, ministre des Finances de l'époque, a démissionné. Donc ça a eu un impact immédiat sur les marchés financiers. On est passé d'un CAC qui était dans les 2000 à 1713. Donc il y a eu une très forte incidence de cet événement politique français sur le marché français en 1995. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1997, 2 ans plus tard, quand Dominique Strauss-Kahn a lui aussi démissionné? Dans la journée, il y a eu une petite baisse intraday de 2%. Je crois que même qu'on a dû finir la journée positive et le marché a continué son mouvement, sa hausse. Donc en 1995, il y a vraiment eu une charnière. On a vraiment eu une conversion de l'économie française à l'économie de marché. Et aujourd'hui, face à la politique, je veux dire, quel que soit le vainqueur à l'Elysée dans quelques semaines, que ce soit l'un des trois favoris, il n'y a aucune incidence sur les marchés financiers à attendre. Il n'y a aucune incidence. La bourse française est majoritairement détenue par les anglo-saxons. Ils ne vont pas prendre peur, si c'est quel que soit le candidat parmi les trois. Je pense qu'il n'y en a aucun des trois qui fait peur.
Donc finalement, la politique, là, elle finit par n'avoir plus de poids face...
Aujourd'hui, 10 ans après... C'est 10-12 ans après, puisque en 1995, l'élection de Jacques Chirac s'est faite sur le thème de la fracture sociale. Donc il y avait, vous vous en souvenez peut-être, à l'automne 1995, on a eu les plus dures grèves de l'après-guerre. Moi, j'étais fonctionnaire à l'époque, j'étais donc dans l'armée. On est même allé nous dire, vous ne serez peut-être pas payé. Donc c'était un truc irréaliste, mais aller nous dire, il y aura peut-être des problèmes pour vous payer, c'était quand même quelque chose de grave. C'était pour dire qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc à cette époque-là, le président Chirac est allé devant le Congrès et le Sénat américain. Il a en quelque sorte dit « Bon ben maintenant je me convertis à l'économie de marché ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il avait une politique, il a été élu sur une politique en mars 1995 et en octobre déjà, il changeait de politique. Il y a eu un changement complet de politique et c'est à partir du moment où il y a eu cette orientation sur l'économie de marché. Le CAC est passé de 1700 points à, comme on le sait, à 7000 points avec des exagérations.
Donc c'était une bonne nouvelle cette conversion ? C'était une conversion au réalisme ?
Voilà, tout à fait. Parce que la France ne peut pas être isolée.
Mais non, la France ne peut pas être isolée. Ainsi parle Alain Véroc, qui est créateur de ProAT, le principal site communautaire des traders. Je vous rappelle qu'on est dans ce salon du trading. On est en mars, hein, il y a quelques semaines. Et bien, ce que vient nous dire Alain Véroc, c'est que la politique est sans conséquence sur la finance. Il vient de nous expliquer les moments, les charnières historiques de cette conversion, a-t-il dit. Qu'en pense Dominique Plion, économiste et conseiller scientifique d'Attac aujourd'hui? Quelles sont les réactions, les positions des élites politiques qui briguent nos suffrages face à la confiscation, à la prédation de l'économie par la spéculation?
Il y a 26 ans maintenant, quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, la bourse avait chuté en une seule journée. Là, quand on interroge les traders sur les conséquences des résultats de l'élection présidentielle française sur les marchés, sur leur activité et puis tout ça, pour eux, que ça soit Sarkozy, que ça soit Bayrou, que ça soit Royal, c'est du pareil au même et la conséquence sur les marchés sera nulle.
Aujourd'hui, les socialistes, par exemple, sont devenus des sociolibéraux et se coulent totalement dans le moule de l'économie, du capitalisme financier.
Et donc, vous pensez que là, finalement, il n'y a aucun candidat qui veut se heurter à ce nouveau mur de l'argent ?
Bien sûr que non, bien sûr que non, même s'ils ont des discours parfois agressifs, et que ce soit Sarkozy, d'ailleurs, ou Bayrou, ou bien Ségolène Royal, ils ont aussi des discours du même genre. Critique hein, par rapport à la spéculation, on a entendu Chirac aussi dans son temps, ils ont tous fait les mêmes discours. C'est pour donner le change, sur le plan intérieur notamment, mais en fait, on l'a bien vu que les politiques qu'ils mènent ne s'attaquent absolument pas aux racines de la spéculation et de la financiarisation de nos économies. Bon, moi, mon analyse, hein, notre analyse à Attac, c'est qu'il y a une alliance des élites politiques, des partis de gouvernement, donc dont le Parti socialiste, dont l'UDF, dont l'UMP, par exemple, avec les élites économiques et financières. Donc ces gens-là ont parti liés. Hein.
Il y a quelques temps sont tombés les résultats du CAC 40 qui annonçaient 100 milliards d'euros de profits. Là, aujourd'hui, sont parus dans Le Monde les dividendes versés aux actionnaires qui s'élèvent pour le CAC 40 à 40 milliards d'euros. Ces 100 milliards d'euros de profits et ces 40 milliards d'euros de dividendes ne sont pas non plus tellement au cœur de la campagne.
Ah non, absolument pas. Il y a une banalisation. Ce qu'on peut reprocher aux trois principaux candidats, pour ne pas, c'est qu'ils se comportent comme s'ils acceptaient ce fait et on le banalise, quoi. Et donc, or, on est dans une situation tout à fait exceptionnelle, enfin, par rapport au passé, les 20 ou 30 dernières années. Et il y a un vrai problème aujourd'hui de confiscation, de prédation, hein, des marchés financiers sur la sphère réelle, sur les salaires dans nos économies. Et ça, c'est quelque chose que les grands dirigeants, les dirigeants des grands partis ne veulent pas aborder parce que, encore une fois, de notre point de vue, ils ont fait alliance, ils ont parti lié avec les élites économiques et financières. Donc, il n'y a absolument plus d'inquiétude.
Yahoo non plus.
Au titre Carrefour Gagne 0.
Merci à Dominique Pion, merci à André Malpel, Pascal Hirtz, Érico, André Brignone, Pierre-Antoine Duchoulier, Alain Vesrock et François Morin. C'était un reportage de François Ruffin. Le nouveau mur de l'argent aux éditions du Seuil, c'est de François Morin. Et les traders, c'est d'Olivier Gauthier aux éditions La Découverte. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse du Suisse. Sur ce même site, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Olivier Daligo et Joël Antena. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Imbert attend vos messages au répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.